Vous allez écouter Les Pieds dans le Parc avec Anne, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux.
Aujourd'hui, je suis avec Mélanie Bienfait, qui est en fait... Mélanie, vous êtes de Puymaira.
Oui, un des plus beaux villages du parc, bien évidemment.
Et Mélanie, donc, est une guide conférencière des villes d'art et d'histoire. Et elle a mis en place une activité qui s'appelle Pas d'histoire. Pourtant, c'est bien autour de l'histoire, tout ça.
Et oui, mais comme des fois ça fait peur quand on parle d'histoire avec un grand H, eh bien là, pas d'histoire, c'est pour dire que je l'aborde de façon tout à fait décomplexée, tout en marchant, bien sûr. C'est un jeu de mots que j'ai voulu faire avec le nom de ma micro-entreprise. Et puis également pour dire que ce sera plein d'anecdotes, de joie, et puis qu'on s'adapte finalement au public qui vient vers moi. Pas de problème.
Et c'est vrai que c'est très vivant. Moi, j'ai eu la chance de faire la visite des sites antiques de Vaison et on se croyait vraiment à l'époque des Romains. Mélanie nous fait rêver. Et aujourd'hui, elle nous a fait rêver avec ces traditions calendales de Noël et qui sont en fait basées sur des traditions anciennes, beaucoup plus anciennes que provençales.
Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec la Provence, on est sur une région qui est tellement riche que derrière la tradition chrétienne, eh bien, quand on gratte derrière, il y a des racines beaucoup plus anciennes, antiques, et on repart chez les Romains, pour ma plus grande joie. Et ça fait que voilà, ce mélange apparaît vraiment dans sa perfection, je trouve, au moment des traditions de Noël, et c'est l'occasion d'en parler et de le partager avec un public très attentif, vraiment.
Exactement, on sentait que tout le monde était très impliqué et avait des choses à ajouter d'ailleurs. Hier, c'était la Sainte-Barbe. La Sainte-Barbe, elle a des origines beaucoup plus anciennes, n'est-ce pas?
Et oui, parce que le 4 décembre correspondait à l'époque romaine, justement, à une fête de la fertilité, à la bonne déesse que l'on priait justement pour l'abondance. Donc on est déjà sur cette idée, cette image de partage, d'abondance, qui représente aussi l'identité que l'on donne à Noël encore jusqu'à nos jours, et ce depuis 2000 ans.
Et alors pourquoi est-ce qu'on plante, qu'on sème du blé ou de l'épeautre à ce moment-là?
Alors c'était pour figurer, pour rappeler le printemps, parce qu'on arrive aux jours les plus courts de l'année, et nous on ne se rend pas compte avec l'électricité combien les ténèbres, le froid pouvaient être quelque chose de traumatisant, on va dire, hein, pour l'homme d'autrefois. Et donc, toute cette fête autour de la lumière, des plantations, du printemps qu'on appelle par cette espèce de petite végétation qu'on met en place, ben, c'était une façon de se dire, voilà, l'hiver est bientôt fini, on va arriver à la nuit la plus longue de l'année, et après le solstice, bien, voilà, la résurrection va revenir.
Quelle belle image. Et donc, le solstice arrive juste avant le 25 décembre. Et là aussi, on est sur une tradition romaine ou grecque même?
Alors, en fait, on est voilà, sur ce qu'on appelle le Saint-Jean d'été, Saint-Jean d'hiver pour nous aujourd'hui. Mais ce sont toujours pareil, cette fête de la lumière. Et le 25 décembre, pour un Romain, c'était la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu. Donc, on a bien cette idée de quelque chose qui va vaincre les ténèbres. Et ça n'est qu'à partir du 4e, 5e siècle que l'Église va reprendre cette date ô combien symbolique pour y greffer donc la nativité telle qu'on la connaît aujourd'hui avec la naissance de l'enfant Jésus.
Comme à l'époque des Romains, on décore les maisons, ou maintenant on décore peut-être surtout la crèche, mais qu'est-ce que les Romains faisaient à cette époque-là?
Alors, a priori, ils n'avaient pas de sapin. Hein. Ça, c'est une tradition qui vient du Nord et qui nous a amenés autrement et à d'autres lieux. Mais c'était déjà du vert, quelque chose qui va rester vert en cette saison si grise, finalement, de l'hiver. Donc, beaucoup de lierre pour eux, qui est vraiment une plante très symbolique, dont ils faisaient des couronnes, qu'on retrouve aussi dans la ponctuation, l'épigraphie, l'écriture. C'était aussi le gui, c'était le hou, donc toute verdure qui va permettre voilà, de lutter contre le froid de l'hiver et la mort des plantes.
Après ça, on arrive dans les Saturnales.
Alors les Saturnales, ça c'était un moment où on se retrouvait entre amis, où on se faisait des cadeaux et où la société s'inversait. Et pour une fois, le maître devait servir l'esclave et l'esclave devait servir le maître et on se faisait des cadeaux et des cadeaux sucrés si possible.
C'est sympathique tout ça. Alors quels étaient le genre de sucreries qu'on aimait bien à l'époque ?
Alors, pas de papillotes, évidemment, ça n'existait pas, mais ils avaient pas mal de choses sympathiques. Donc, on s'offrait des rayons de miel, on s'offrait des dattes fourrées aux pignons de pain dont on a encore la recette et qu'on peut vraiment refaire à la maison très facilement. On s'offrait des figues qui se conservent bien, qui sont très sucrées également. Et c'était tout ça pour dire, voilà, c'est sucré, c'est doux, c'est bon, et je te souhaite que cette année que tu vas passer à venir soit aussi douce que les friandises que je t'offre.
Qu'est-ce que c'est joli et délicieux d'ailleurs. Et donc on a gardé nous aussi un peu cette tradition peut-être avec les calissons ou les choses de ce genre.
Alors on reste évidemment sur des choses très très sucrées qu'on va retrouver dans nos 13 desserts provençaux et bien au-delà évidemment. C'est le moment où on apprécie les friandises. Et puis l'idée de les partager, de se faire des cadeaux, c'est quelque chose là aussi qui a vraiment une pratique pérenne hein, qui remonte à l'époque antique et qu'on fait toujours avec plaisir aujourd'hui.
Ce sont un peu comme des étrennes.
Voilà, c'est ça. Il y avait les étrennes. Alors pour les étrennes, donc c'était de l'argent aussi qu'on se remettait et qui parfois était caché justement au milieu de ces petites dattes fourrées, donc il fallait pas croquer trop fort pour ne pas se casser les dents. Mais voilà, on se remettait de l'argent et c'était pas que pour les enfants. Les strenae qui correspondaient donc à la première 1er janvier, hein, c'était vraiment là aussi pour se souhaiter la fortune, l'abondance, toutes ces belles choses que l'on souhaitait à ses amis et ses voisins pour cette période-là.
La crèche arrive plus tard, bien évidemment, on est dans une période chrétienne.
Voilà, donc avec le christianisme, bien sûr, toutes ces fêtes, tout en gardant leur esprit de partage vont se teinter de christianisme et de religion romaine avec une autre signification. Et la crèche en Provence, là aussi, a quand même de vieilles racines puisqu'on l'a fait remonter à Saint-François d'Assise dont la maman était comtadine. On ne peut pas dire qu'elle faisait partie du parc encore, hein, ça n'existait pas. Elle était comtadine. Alors entre Saint-François d'Assise, nord d'Italie et puis notre région, ben, le santon avait quand même de beaux jours à se préparer depuis cette époque-là.
Vous parliez des premiers santons qui étaient en pâte de coin.
Oui, la première mention qu'on a du mot santon est utilisé effectivement pour une petite friandise sucrée qu'on donne à une petite fille en pâte de coin. Donc j'invite tous les confiseurs qui écoutent à reproduire pour qu'on puisse manger nos santons avec bonheur.
Et alors, deux mots sur la veille de Noël. Vous parliez de la tradition autour de la bûche de Noël.
Oui, ça c'est quelque chose qui a subsisté en Provence, alors que ma foi partout, autrefois certainement, on devait allumer la cheminée chaque soir. Mais qui a encore une cheminée chez soi? C'est pas évident. Et en Provence, on allumait le feu avec une tradition très particulière là aussi, qui était présage de bonnes choses pour toute l'année. Et cette tradition de la bûche s'appelle le cachofio. Et c'est une bûche ornée, énorme, d'un bois fruitier mort dans l'année, que l'on va disposer dans la cheminée et qui doit brûler normalement jusqu'au 6 janvier. Je vous laisse imaginer la taille de la bûche.
Mais alors nous, les bûches de Noël, on les mange.
Et oui. À défaut, il semblerait que justement cette tradition du cachofio qu'on ne pouvait pas forcément respecter, surtout par exemple quand on était en ville, ait inspiré peut-être un pâtissier lyonnais ou parisien, on ne sait pas trop, mais qui, fin 19e et surtout après la Première Guerre mondiale, va inventer ses premières bûches à la crème pâtissière qui sont gourmandes.
Alors Noël, je pense que tout le monde connaît déjà les 13 desserts, le gros souper. Parlez-nous de la symbolique de l'épiphanie.
Alors l'épiphanie, c'est toujours pareil. C'est une fête de la lumière, finalement, hein, avec les cadeaux de ces rois. Autrefois, en tout cas, les enfants en Provence y recevaient leurs cadeaux, comme en Espagne, finalement. Je renvoie toujours, pour les amateurs de Frédéric Mistral, au récit qu'il en fait dans ses mémoires, où il raconte que les parents envoyaient les enfants guetter l'arrivée des rois dans le village, et qu'entre-temps, bien sûr, ils disposaient les cadeaux sur la table. Et quand les enfants, tout déconfiés, arrivaient en disant « on n'a pas vu les rois », eh bien, ils avaient des cadeaux pour les consoler.
Quelle jolie histoire! Et alors, quelles sont les perspectives, justement, pour pas d'histoire. Quels sont vos projets en cours? Donc, il y a cette tournée calendale, mais est-ce qu'il y a d'autres choses?
Voilà, déjà, jusqu'au fin décembre, ça va pas mal m'occuper, puisque je m'occupe également de monter l'exposition des crèches qui aura lieu donc à la cathédrale de la cité médiévale à Vaison, que j'invite tout le monde à venir voir, parce qu'on remonte une table du gros souper, 13 desserts, il y a des conférences autour de ça, donc ça, effectivement, jusqu'au fin décembre, c'est assez occupant. Et ensuite, je vais repasser à mes premières amours, ça veut dire les Romains, puisque j'ai été demandé pour pas mal de conférences et une recherche un petit peu particulière qui va m'être faite puisque l'année prochaine, eh bien, il y a un événement dont on parle déjà beaucoup.
Ah oui, vous parlez des Jeux Olympiques.
C'est ça, les Jeux Olympiques. Voilà, je fais partie d'une association de reconstitution de l'Antiquité sur Arles, donc l'association Art et Latte. Comme la flamme olympique va passer à Arles du côté du mois d'avril, eh bien, il se pourrait qu'on ait à travailler sur le sujet et comment les Romains allumaient cette flamme olympique. Donc, un gros travail de reconstitution qui m'attend.
Et Mélanie, comment est-ce qu'on peut vous contacter et comment est-ce qu'on peut connaître vos programmes de conférences?
Comme je suis sur, on va dire, deux secteurs, Vaison et Carpentras, je vous invite vraiment à consulter les deux sites des offices de tourisme, particulièrement celui de Vaison où vous aurez tous mes coordonnées puisqu'il y a une vignette voilà, qui vous présente mes activités. Et à Carpentras, dès qu'il y a des conférences qui sont organisées sur le territoire commune du Mont Ventoux, vous trouverez également, pareil, très régulièrement, mon nom inscrit pour tel ou tel sujet.
Et un petit numéro de téléphone?
Oui, alors c'est le 06 34 65 44 85. Avec plaisir pour vous guider.
Un grand merci Mélanie qui nous fait déjà saliver pour cette période très festive de Noël.
Vous venez d'écouter Les Pieds dans le Parc avec Anne, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux.